Madrid, Moscou.
Je crois aux forces de l'esprit.
Pour aller amuser la galerie.
There is no alternative.
Désastre. Alignement des astres.
Atatast. En façon. Esburgatus.
Time will tell.
Russe Europe Express.
Jacques Sapir.
Clément Olivier. On connaissait l'empire du mal, on connaissait l'axe du mal, on connaissait les avant-postes de la tyrannie. Voici venir, chers auditeurs, la troïka de la tyrannie. Les États-Unis font preuve, vous le savez, d'autant de créativité pour désigner leurs ennemis que d'ingéniosité pour les punir. Corée du Nord, Russie, Cuba, Venezuela ou encore Iran, et la liste est non exhaustive, autant de pays sous sanctions américaines. Embargo et autres mesures restrictives. Alors au-delà de ce qu'on peut penser des différents régimes, qu'impliquent ces décisions sur la stabilité des zones touchées? Par ailleurs, la première puissance du monde est-elle vraiment toute puissante? Comment réagissent les pays frappés? Ont-ils développé des méthodes efficaces pour les contrecarrer ou les contourner, ces sanctions? Vous écoutez Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir.
Bonjour Clément.
Et pour ce tour d'horizon transversal qu'on vous propose aujourd'hui, en plus de vos compétences, Jacques Sapir, qu'on connaît bien sur la Russie, on a invité deux spécialistes de régions bien distinctes pour nous parler du Moyen-Orient. François Nicoulot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien ambassadeur de France en Iran. Quant à l'Amérique latine, on est avec Jean-Jacques Kourlianski, bonjour.
Bonjour.
Chercheur à l'IRIS et directeur de l'Observatoire Amérique latine à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes expert de ce qu'on appelle les questions ibériques. Je laisse d'abord la parole à Jacques Sapir, votre édito liminaire. Et cette question récurrente de l'extraterritorialité américaine.
Oui, tout à fait. Et justement, cette extraterritorialité de la loi américaine, on vient d'en avoir récemment encore un nouvel exemple. Alors oui, le gouvernement américain est tout à fait décidé, du moins le prétend-il, à faire plier l'Iran. Et pour cela, il met en place un régime de sanctions qui s'appliquerait aussi aux acteurs économiques des autres pays qui auraient le malheur de ne pas suivre les États-Unis dans leur politique de sanctions. Et cette question relance à l'évidence le débat sur cette supranationalité des décisions américaines.
Mais ça n'est pas la première fois, Jacques Sapir.
Bien sûr que non. On le sait, les États-Unis ont décidé d'appliquer leurs lois sans trop tenir compte du principe de nationalité des acteurs, au nom de ce que les sociétés qui pourraient encourir leur foudre, eh bien évidemment, elles commercent en dollars. Alors, un exemple, la Société Générale a été mise à l'amende le 19 novembre par diverses agences américaines à hauteur de 1,3 milliard de dollars pour avoir violé différents embargos économiques, en particulier sur Cuba et sur l'Iran. Rappelons que cet embargo avait été décidé uniquement par les États-Unis. Et cette sanction repose en réalité sur le fait que certaines opérations en dollars américains avaient été effectuées par la Société Générale impliquant des pays, des personnes ou des entités faisant l'objet justement de ces sanctions économiques américaines. Et il a été considéré, en tous les cas par les États-Unis, que ces sanctions relevaient des lois de l'État de New York. Voilà, c'est ce que précise la banque dans un communiqué, et on sait que la banque a accepté de coopérer avec les autorités américaines. La Société Générale a donc signé un accord de suspension des poursuites avec le bureau du procureur fédéral de New York, chargé du dossier. Elle sera toutefois soumise à une période probatoire de 3 ans, au bout de laquelle les poursuites seront définitivement abandonnées si la Société Générale se conforme à l'accord. Alors, on voit bien que il y a là un véritable problème parce que on a une banque française qui accepte de facto la tutelle d'un gouvernement étranger.
Mais oui, j'allais vous dire, c'est, disons que le point va donc à Washington. Est-ce que ça n'est pas le jeu du rapport de force, Jacques Sapir?
C'est évidemment une question de rapport de force, mais cette question justement du rapport de force, elle est à prendre sous différents angles. On voit bien que les pratiques américaines qui autorise le gouvernement de Washington d'étendre son emprise ou ses caprices économiques bien au-delà des sociétés américaines, donne en réalité un droit de regard, un droit de contrôle aux États-Unis sur une large part du commerce international. Est-ce acceptable? Eh bien, on peut penser que beaucoup de pays seraient conduits à penser que cela ne l'est pas.
Mais alors, existe-t-il des solutions permettant de contourner les mesures américaines?
Oui, bien sûr. Et ces solutions, d'ailleurs, sont connues. Elles ont d'ailleurs été appliquées depuis 30 à 40 ans. Alors, parmi ces solutions, on peut évoquer d'abord le commerce en nature, ou le commerce dit bilatéral avec compensation, c'est ça son terme technique, qui est en fait un retour à une forme de troc, et à ce moment-là, on n'utilise pas le dollar. Mais il y a aussi l'existence de sociétés écrans. Une société qui, par exemple, voudrait commercer avec l'Iran, vendrait à une autre société française qui, elle, commercerait avec l'Iran. Et cette société française n'existant que pour faire du commerce avec l'Iran, quelles que soient les mesures que prendraient à son encontre les États-Unis, ces mesures n'auraient pas d'efficacité. Il n'y aurait pas justement la capacité des États-Unis à mordre sur le chiffre d'affaires de cette société. Mais la véritable question qui convient donc de poser est, en réalité, pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas été traînés par différents pays devant la Cour internationale de la Haye ? Et d'autre part, pourquoi les pays de l'Union européenne, qui aujourd'hui commencent à évoquer la possibilité de mettre en place justement des sociétés écrans pour poursuivre leur commerce avec l'Iran, eh bien pourquoi ces pays ont-ils tant tardé justement à prendre ces mesures et pourquoi ont-ils été aussi passifs pour la défense de la liberté de leur commerce face aux États-Unis ? Telle est la véritable question qu'il faut poser. Pourquoi de si faibles et de si timides réactions de la part des pays européens ?
Et justement, c'est pour cette raison qu'on est très heureux d'avoir avec nous un ancien diplomate. Quelques mots, François Nicolau, sur la position européenne qui essaye de sauver les acquis de l'accord sur le nucléaire iranien. Et ce mécanisme de compensation que nous a expliqué Jacques Sapir, votre avis sur tout ça, sur la position européenne ?
La position européenne, elle est rendue quand même très difficile. D'abord parce que les États peuvent avoir une ligne de conduite ou l'Union européenne en tant que telle, mais les sociétés ne sont pas subordonnées à l'État. Quand Total décide à contre-cœur de ne plus intervenir en Iran, c'est tout simplement parce qu'il emprunte sur le marché américain 70% de ses besoins en liquidité. Et toutes les sociétés d'un peu d'importance, celles qui précisément font du commerce international, sont d'une certaine façon des sociétés américaines. Les banques européennes, enfin qui appartiennent à l'Union européenne, quelles que soient les injonctions de leur gouvernement ou de l'Union européenne, de la Commission ou quoi que ce soit, elles savent très bien que si elles violent les sanctions américaines, elles prennent le risque d'être éjectées des grandes bourses américaines, de Wall Street, et donc elles sont coincées.
C'est pour ça que je vous pose la question. On a entendu Bruno Le Maire taper du poing sur la table, un peu tous les pays membres de l'UE, mais qu'est-ce qui est finalement fait ce SPV, ce Special Purpose Vehicle, c'est son nom de cette chambre de compensation qui doit être mise en place. On a décidé de faire ça, mais en même temps, pour l'instant, personne ne s'avance à l'accueillir, peut-être justement par peur de représailles.
En effet, il y a certainement la peur de représailles sur ce mécanisme, en effet, qui permettrait, en faisant du troc, d'échapper à l'utilisation du dollar, qui est une des clés, effectivement, d'intervention pour les Américains en matière de sanctions. Ce n'est d'ailleurs pas la seule. Alors, ce mécanisme est complexe, il va mettre du temps à se mettre en place. S'il se met en place, je pense qu'il y a une volonté politique
Vous pensez qu'on va y arriver ?
Je pense qu'il est possible qu'on y arrive, mais il est certain qu'elle permettra d'assurer, je pense, au maximum un flux de commerce courant. Mmh. Les grands investissements, comme je disais, les grandes ventes, comme celles qu'Airbus avait à un moment envisagé, il envisageait de vendre une centaine d'avions, ça ne peut pas passer par des mécanismes de ce genre.
Alors
ça,
vous êtes plutôt optimiste, et on l'entend bien, n'empêche que Total part pour de vrai là, d'Iran, donc ça ne marche pas vraiment jusqu'à présent.
Ça marche à moitié. Ensuite, il faut voir quelle est l'efficacité des sanctions sur l'économie iranienne et sur la société iranienne. On a déjà vécu une période de sanctions dures où l'Europe était du côté des États-Unis. Il ne faut jamais l'oublier quand même. Dans la période 2010-2015 à peu près, ces sanctions étaient très dures. Elles ont puni la société iranienne, elles ont puni l'économie iranienne, elles ont puni les gens qui ont souffert. D'un autre côté, le régime a résisté. Il a résisté. Et d'ailleurs, si on poursuit un peu le raisonnement, le fait que finalement un compromis ait été trouvé, qu'un accord nucléaire ait été conclu, tient à la fois au succès des sanctions et à l'échec des sanctions. Succès dans la mesure où la population souffrait, donc aux élections de 2013, Rouhani, le candidat, a fait campagne là-dessus. Hein, il a fait campagne là-dessus sur la levée des sanctions, en disant ça sert à rien d'avoir des centrifugeuses d'enrichissement d'uranium qui tournent si l'économie ne tourne pas. Mais en même temps, les Américains étaient conscients du fait que si dur que les sanctions soient sur l'économie iranienne, elles ne ralentissait pas la progression du programme nucléaire. Et donc, il y avait un échec des sanctions dans leur but primordial qui a amené les Américains à dire qu'il faut faire des concessions pour arriver à trouver un accord.
Et ça a été un acquis diplomatique tout à fait salué. Cette phrase un peu piquante de Jacques Sapir tout à l'heure, pourquoi est-ce que les États-Unis n'auront jamais été traités devant la Cour internationale de La Haye, votre avis, François?
Non, mais ils l'ont été. D'abord, les Iraniens ont traîné les États-Unis. États-Unis tout récemment, précisément à l'occasion du rétablissement des sanctions, et la Cour a émis un jugement provisoire en attendant le jugement définitif, où il demande, à titre donc conservatoire, enfin pour la, attendant la décision définitive, que les Américains lèvent les sanctions en tous les cas sur les biens essentiels, sur les biens humanitaires, agricoles, santé, médecine, etc. Les États-Unis n'en font rien. Évidemment, les Iraniens ne sont pas content, mais pour être tout à fait juste, il faut rappeler aussi que les Iraniens qui avaient été condamnés par la même Cour internationale de justice quand les Américains les avaient poursuivis à l'occasion de la prise en otage de 52 Américains à l'ambassade américaine, donc aux États-Unis, les Iraniens avaient été condamnés, avaient refusé d'appliquer la décision de la Cour.
Jacques Sapir.
Oui, on voit bien le problème et on voit bien d'ailleurs les limites d'une action iranienne face au tribunal international de La Haye. Le problème, ça serait plutôt aux Européens, on peut dire, de traîner les États-Unis devant le tribunal de La Haye, justement pour préjudice par rapport à leur flux de commerce international. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi n'en est-il rien ? C'est une vieille question. Elle avait commencé à se poser quand il y avait eu le début de la procédure contre la Société Générale. C'était, je crois, du temps encore de la présidence de M. Nicolas Sarkozy, parce que c'est une affaire qui dure depuis maintenant de fort nombreuses années. Si vous voulez, cet acte était resté absolument sans réponse du gouvernement français.
François Nigoulot.
Oui, non, c'est exact. Mais il est vrai, disons que l'Europe a quand même poursuivi les États-Unis en matière de sanctions, mais alors devant le tribunal, devant d'arbitrage de l'Organisation mondiale du commerce. Hein. Ça s'est passé dans les années 95. L'affaire n'a pas abouti parce que les Américains ont cédé à l'époque. Et précisément, Total était en jeu. Total voulait intervenir en Iran. Les sociétés pétrolières européennes, elles ont été empêchées d'intervenir en raison des sanctions américaines. Les Européens ont réagi en traînant les États-Unis devant le tribunal de l'Organisation mondiale du commerce. Et finalement, les Américains ont cédé. Le président américain, qui était Clinton à l'époque, a pris ce qu'on appelle des waivers, des exemptions, qui ont des exemptions à leurs propres sanctions, donc, qui ont permis, en l'occurrence, aux sociétés européennes, notamment à Total, d'intervenir de façon très importante en Iran dans le domaine pétrolier.
Jean-Jacques Courlianski, changeons de continent, si vous le voulez bien. En Amérique latine, ça c'est votre domaine. On a quand même le Venezuela et Cuba, là, dont on parle beaucoup. Évidemment, un embargo dont on parlait d'une levée, mais c'est peut-être un peu remis en question par Donald Trump. Sur le Venezuela, peut-être. D'abord, on parle beaucoup d'une dérive autoritaire de Nicolas Maduro, mais il faut rappeler ce que subit le Venezuela comme sanctions américaines.
Bon, alors, il y a des sanctions effectivement américaines à l'égard du Venezuela, mais qui ne portent pas sur l'essentiel. C'est-à-dire, elles ne portent pas sur les ventes de pétrole vénézuélien aux États-Unis. Bon, les ventes doivent se faire en cash. Il n'y a pas de, c'est un petit peu comme les ventes des achats par Cuba de produits alimentaires ou pharmaceutiques aux États-Unis par dérogation aux sanctions de 1962, 92 et 96. Donc il y a des pressions qui visent des personnes qui sont interdites de séjour aux États-Unis, dont les comptes bancaires et les avoirs aux États-Unis ont été bloqués, mais qui ne portent pas sur l'essentiel, sur le pétrole. Donc il faut bien voir que toutes ces mesures que prennent les États-Unis de façon unilatérale sont des mesures avec beaucoup de trous, sont des mesures passoires. Un cas, non pas portant sur le Venezuela, mais sur Cuba, qui est très révélateur de cette situation. La France, traditionnellement, était le premier exportateur de produits agricoles à Cuba. Se posait un problème de garantie, d'assurance pour les exportateurs français. Après l'affaire, non pas de la Société Générale, mais de la BNP et de Commerce Bank aussi, la banque allemande.
Il faut peut-être nous rappeler ça.
Ces
deux sociétés avaient été condamnées justement pour le commerce avec Cuba par...
Qui s'était fait en dollars via les États-Unis. Et donc, les sociétés d'assurance françaises ont refusé de garantir les exportateurs français traditionnel en matière agricole en direction de Cuba. Et le paradoxe est le suivant, c'est que depuis 2000, les États-Unis autorisent le lobby agro-exportateur américain à vendre leur production à Cuba sous réserve que les Cubains payent cash. Donc les exportateurs français de produits agricoles n'ont pas pu conserver leur marché cubain faute d'avoir une garantie d'assurance. Et ce sont donc les producteurs nord-américains qui ont, eux, eu cette possibilité en infraction, entre guillemets, avec, par dérogation aux règles de sanctions imposées par les États-Unis.
Cette détente qui était amorcée dans l'ère Obama, quelle est votre interprétation de ce revirement de Donald Trump?
Alors, c'est un revirement partiel, puisque Obama n'avait pas levé les sanctions. Donc, ce qui avait été rétabli, ce sont les relations en 2015, c'est la réouverture des ambassades. Bon, il y avait depuis quelques années des quasi-ambassades qui fonctionnaient dans les deux pays sous l'autorité nominale de la Suisse, sous la responsabilité de la Confédération helvétique. Donc, il y a eu une officialisation des relations diplomatiques, un rétablissement, disons, qui avait été rompu en 1962. Un allègement des possibilités de voyager à Cuba de la part des citoyens cubains ou binationaux vivant aux États-Unis. Donc ces choses-là ont été révisées. Et le gouvernement de Donald Trump a ajouté une sanction supplémentaire. Il a interdit toute relation avec un conglomérat de l'armée cubaine qui gère la plupart des activités touristiques du pays. Et donc effectivement, on peut considérer que les sanctions ont été maintenues avec un aggravant par Donald Trump qui n'est pas allé, pour autant, jusqu'à un retour à la situation de l'époque de George Bush, donc à une suspension des relations diplomatiques et une quasi-suspension des possibilités de voyager pour les citoyens américains d'origine cubaine.
Concernant le Venezuela, vous nous parlez de sanctions passoires, mais il y a aussi diverses formes de pression économique très forte des États-Unis et un patronat vénézuélien qui est plutôt pro-américain et que certains accusent carrément d'organiser des pénuries, notamment cette fameuse pénurie de papier toilette.
Alors, il y a un autre élément qui entre en ligne de cause, c'est le lobby cubano-américain aux États-Unis qui fait actuellement pression pour que le Venezuela entre dans la catégorie des pays encourageant le terrorisme dans le monde. Donc, ce qui entraînerait d'autres conséquences, des difficultés.
Il peut aller jusqu'à une potentielle intervention.
Pour le Venezuela.
Extérieur.
Enfin, c'est une mesure, une proposition qui est en cours d'examen par le Congrès, donc qui est maintenant en majorité démocrate. Je ne sais pas très bien ce que vont décider les démocrates. L'argumentation, pour ce que l'on en sait, est assez curieuse. Il serait reproché aux autorités cubaines d'avoir des relations avec l'ETA qui n'existe plus, l'organisation basque violente indépendantiste, avec le Hezbollah, ce qui reste a démontré, et avec les FARC, qui également, depuis 2016, ont signé un accord de paix avec le gouvernement colombien et sont démobilisés. Donc, c'est ce type d'argument qui avait fait considérer que Cuba était également un État terroriste, qualification qui avait été supprimée par Clinton en 1998. Bon, mais cela dit, comme on est dans l'arbitraire le plus total, effectivement, pour ces arguments-là, le Venezuela pourrait entrer dans ce type de catégorie. Ce qu'il faut voir, pour revenir à la question plus globale que vous avez posée, sur les réactions des pays voisins, c'est qu'il y a des va-et-vient qui sont liés aux évolutions de politique interne dans ces différents pays. Et le président Trump, concernant le Venezuela, peut-être le Nicaragua dans quelques mois, peut-être Cuba, peut s'appuyer sur les nouveaux gouvernements conservateurs ou ultralibéraux qui sont arrivés au pouvoir dans des circonstances diverses en Amérique latine ces derniers mois, et qui ont constitué, pour certains d'entre eux, sans que les États-Unis en fassent partie, c'est un peu le paradoxe, ce qu'on appelle le groupe de Lima, qui mène des actions concertées en vue d'isoler le Venezuela, de façon d'ailleurs assez peu compréhensible et contradictoire, dans la mesure où un isolement économique du Venezuela, des pressions économiques, des sanctions économiques renforcées, aggrave la situation non pas des dirigeants mais de la population, et on sait que la principale conséquence de ce genre de mesures est de provoquer un exode de plusieurs centaines de milliers de Vénézuéliens que doivent gérer les pays frontaliers, les pays voisins, qui n'étaient pas du tout préparés à ce genre de situation, auxquels étaient davantage habitués les pays africains ou les pays du Moyen-Orient. Donc on est dans cette situation-là, et c'est un élément qu'il convient de prendre en compte également pour l'Europe, où les positions peuvent être également plutôt favorable aux États-Unis à certaines époques, et plutôt réservé à d'autres.
Russe Europe Express,
Jacques Sapir,
Clément Olivier.
Jacques Sapir.
Oui, on voit bien, je pense qu'il faut là généraliser un petit peu la question. On voit bien que les États-Unis s'arrogent le droit d'intervenir, alors qu'ils le fassent en leur nom, très bien, mais s'arrogent le droit surtout d'intervenir sur le commerce des autres pays. C'est-à-dire que il y a des sociétés françaises, allemandes, italiennes, etc., qui sont touchées, etc. Bon, et ça, c'est un point à la fois important commercialement, mais c'est un point aussi qui est en train de remettre en cause, en réalité, ce qu'on appelle la mondialisation. Parce que, en réaction à cela, toute une série de pays sont en train de développer des relations et sortent ou sont en train de sortir de ce grand marché globalisé. Donc, la chose qui m'apparaît quand même très paradoxale, c'est que ce sont les États-Unis qui ont beaucoup poussé à cette globalisation, à cette mondialisation, en tous les cas financière, mais aussi commerciale, dans les années 80, les années 90 et le début des années 2000, et qui aujourd'hui, par leurs mesures, sont en train de provoquer une fragmentation du monde. On le voit par exemple sur les agences de notation. Il y a 25 ans, il y avait essentiellement trois agences, elles étaient américaines. Aujourd'hui, la Chine s'est dotée d'une agence de notation et qui évidemment note de manière très différente des agences américaines, que ce soit les titres russes, les titres chinois, etc. La Russie, en fait, c'est doté d'une agence qui est en train de se développer et qui va commencer à fournir normalement ce printemps des premières notations généralisées sur 700 à 800 sociétés non russes. Donc on voit bien que on n'est plus dans la situation où l'on pouvait être dans les années 90. Et la question que je me pose, c'est est-ce que l'on n'est pas en train d'aboutir à une situation où chaque pays ou chaque groupe de pays est en train de se replier sur soi.
Avant de vous faire réagir, messieurs, justement par rapport à la Russie, il faut nous expliquer en quoi les sanctions américaines se distinguent des sanctions européennes contre la Russie.
Oui, les sanctions européennes, elles ne touchaient que très 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 faiblement. En fait, économiquement, on n'arrive pas à voir leur impact sur l'économie russe. Par contre, ce qui est assez significatif, c'est que la Russie a pris, à l'occasion de ces sanctions, des contre-sanctions qui, elles, ont eu un effet assez sensible. Alors, très particulier, essentiellement dans le secteur de l'agroalimentaire, sur toute une série de pays de l'Union européenne, dont en particulier la France, l'Italie, la Pologne, etc. Par contre, les sanctions des États-Unis qui portaient plutôt sur la question financière, alors là aussi, c'est extrêmement intéressant, elles ont provoqué en 2014-2015, en partie, une très grande fragilité du marché d'échange et de la situation d'échange en Russie, qui a fini par être digérée par la Russie. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que la Russie est en train d'abandonner l'usage des bons du trésor des États-Unis comme moyen de réserve pour sa banque centrale. Et donc, on voit bien que la Russie, de fait, qui parlait depuis 2008 de sortir d'un monde qui était dominé par le dollar, mais ça restait essentiellement au niveau déclaratoire, il n'y avait rien de sérieux qui avait été fait à l'époque, eh bien aujourd'hui elle est d'une certaine manière amenée à construire un système, si vous voulez, alternatif avec la Chine. Et ça repose justement la question du devenir de la mondialisation.
Une Russie qui se cherche donc des solutions alternatives, des solutions de contournement. François Niculot, vous qui êtes ancien diplomate, cet unilatéralisme américain dont parle Jacques Sapir, qui remettrait en cause la mondialisation, ou en tout cas la mondialisation telle qu'on la connaissait, votre avis?
Oui, ça va prendre du temps. Hein, on voit bien que tout le monde essaye de trouver des façons d'échapper à cette hégémonie, hein, du dollar et de l'économie américaine. Mais le dollar représente encore aujourd'hui 80% des échanges internationaux. Les échanges en pétrole, les échanges de pétrole, les ventes de pétrole se font en dollars, hein. Quand Airbus vend des avions à une société européenne, Air France ou à KLM, si vous voulez, les transactions se font en dollars. C'est quand même assez curieux. On pourrait imaginer qu'elles se fassent en euros. Bon, on peut un jour elles seront peut-être en euros, mais bon, c'est pas encore arrivé aujourd'hui. Voilà, on en est là à ce stade. Donc tout ceci va prendre un certain temps.
L'hégémonie du dollar, comme disait Céline. Ces ventes de pétrole en dollars, Jean-Jacques Kourlianski, votre avis sur le pétro, la crypto-monnaie de Nicolas Maduro?
Je voudrais revenir
bien
sur
le... je vous en prie.
Ce qui a été évoqué tout à l'heure sur la globalisation, le rôle des sanctions dans l'évolution des choses. Je crois qu'il faut distinguer les sanctions, l'origine des sanctions. Il faut rappeler que pour Cuba, ça remonte en 1962, en pleine guerre froide. On était dans un autre contexte. Ces sanctions ont été perpétuées en pleine époque de l'euphorie de la globalisation. Dans les sanctions avaient une vocation et ont toujours une vocation essentiellement politique. La globalisation, c'est autre chose. Ce n'est plus aujourd'hui à l'ordre du jour du président des États-Unis, qui s'est retiré des négociations du traité transpacifique, qui, après avoir beaucoup hésité, a maintenu la présence des États-Unis dans l'accord de libre-échange nord-américain, mais en imposant un certain nombre, enfin en faisant plier en quelque sorte ses partenaires canadiens et mexicains. Et donc, effectivement, ça finit par rejoindre, c'est la politique de sanctions qui devient une arme dans la politique de déglobalisation et de renationalisation de la politique en général, de la diplomatie en général, et des relations économiques et commerciales des États-Unis. Donc, je crois que c'est dans ce contexte-là qu'il faut situer la question des sanctions qui ne sont pas un élément nouveau de la part de la part du gouvernement des États-Unis. C'est une autre chose qui vient s'ajouter, finalement, à une nouvelle orientation anti-globalisation de la politique extérieure, commerciale et diplomatique de Donald Trump.
Et face à cela, les mécanismes de contournement, je mentionnais le pétro.
Bon, les mécanismes de contournement, c'est de rechercher d'autres partenariats. Donc, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, on a vu que Cuba avait cherché, ça a provoqué le basculement d'ailleurs du tiers-mondiste cubain vers un tiers-mondisme aligné sur l'Union soviétique, donc qui a été le partenaire principal de Cuba jusqu'en 90. Oui, à partir du moment, quand il y a eu les changements que vous savez, donc Cuba est passé par ce qui on appelle une période spéciale et qui a été extrêmement brutale, avec une perte de 40% du PIB, des difficultés pour la population, des boat people en direction des pays de la région et des États-Unis. Puis Cuba s'est appuyé sur le Venezuela, donc avec des échanges de pétrole contre techniciens médicaux, sportifs, avec Hugo Chavez, avec le Venezuela. Bon, le Venezuela n'est plus en mesure d'assurer ce genre d'accord. Le PIB cubain a rechuté, il sera de 1% cette année. Donc Cuba cherche d'autres partenaires un peu partout, le Vietnam, les pays asiatiques. Aujourd'hui, le président du gouvernement espagnol, donc c'est la première fois depuis 1986 qu'il y a une visite d'un chef de gouvernement espagnol. L'Espagne est effectivement l'un des principaux, avec le Venezuela, mais qui est en perte de vitesse, et la Chine, un des principaux partenaires de Cuba. La France, qui a joué un certain rôle dans les relations avec Cuba. Donc, il y a beaucoup de PME, donc, ce qui permet, européennes présentes à Cuba qui n'ont pas d'activité aux États-Unis. Donc, ce qui permet de en quelque sorte, de contourner naturellement l'embargo, mais avec beaucoup de difficultés portant sur l'impossibilité d'utiliser le dollar dans les transactions, d'utiliser même des compagnies de transport maritime qui ont des activités en direction des États-Unis. Il y a eu des cas d'ONG comme Caritas qui n'ont pu envoyer, après une catastrophe naturelle à Cuba, une aide, puisque le bateau qui avait été affrété était un bateau d'une compagnie maritime ayant des activités aux États-Unis. Donc les États-Unis ont fait immédiatement savoir que ce n'était pas possible.
Jean-Jacques Courlianski, permettez-moi de vous poser une question un peu provocante. Par rapport à cet aspect politique que vous mentionniez, vous nous parliez de la guerre froide. Cuba a adopté un parti unique à l'époque. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est pour ça qu'elle est le seul pays qui est résisté dans les années 70 à ce qu'on a appelé l'opération Condor ? Évidemment, je ne fais pas l'apologie des partis uniques, mais est-ce que finalement, la dictature ne serait pas le moyen le moins inefficace, paradoxalement et malheureusement, pour résister aux pressions américaine.
On pourrait poser le problème à l'envers. Quand on discute avec des officiels cubains, en privé évidemment, ils reconnaissent à peu près tous qu'une ouverture à Cuba est possible, mais cette ouverture ne sera possible qu'après une normalisation des relations avec les États-Unis, et que dans la situation actuelle, c'est quelque chose qui leur paraît de nature à déstabiliser les équilibres cubains et à faire retomber Cuba dans la situation qui était la sienne par rapport aux États-Unis avant la révolution cubaine, avant les années 60.
Et sur le Venezuela, vous allez me dire la même chose.
Parallèlement, le constat que l'on peut faire, c'est que je reviens sur les réactions des pays voisins. Vous avez vu qu'il y a eu des élections au Brésil, avec l'arrivée à la présidence du Brésil d'un chef d'État qui a des conceptions quasiment religieuses et fondées sur l'anticommunisme de la politique, et qu'il a contesté la présence de médecins cubains depuis 2013 dans son pays, qui était dans des déserts médicaux brésiliens. Donc il y avait actuellement plus de 8000 médecins cubains au Brésil. Donc le président brésilien, qui n'est pas encore entré en fonction, Jair Bolsonaro, a fait savoir que la présence des médecins cubains, il fallait procéder à leur expulsion en leur demandant de revalider leur diplôme. Et donc le gouvernement cubain a immédiatement riposté le 22 novembre en procédant à un rapatriement immédiat des 8000 médecins. Donc c'est effectivement, si le gouvernement cubain n'était pas ce qu'il est, il aurait pu difficilement répondre à cette déclaration agressive d'un gouvernement latino-américain par une mesure tout aussi, une contre-mesure tout aussi rigoureuse et radicale.
Et sur le Venezuela, cette dérive autoritaire de Nicolas Maduro, est-ce qu'elle est aussi liée à ce qui se passe dans le pays ?
Bon, la situation du Venezuela est difficilement comparable à celle de Cuba. Hein. Et il n'y a pas eu de mesures aussi radicales au Venezuela qu'à Cuba en matière de nationalisation des entreprises privées, de négation de la liberté d'opinion. Et il y a des élections avec une présence de différents partis politiques. C'est vrai qu'il y a une radicalité de la part du gouvernement dans l'expression, à laquelle répond une radicalité tout aussi intolérante de la part de l'opposition.
D'une certaine opposition.
Il n'y a pas eu non plus de réforme,
de dérive et pas de,
de réforme fiscale taxant les plus riches pour essayer de rééquilibrer la situation d'inégalité au Venezuela, qui est aussi forte que dans celle des autres pays d'Amérique latine. Donc on est dans une autre... Il y a eu un projet de développement à caractère social et nationaliste basé sur les revenus du pétrole, et donc qui a fonctionné relativement bien pendant la période où les prix du pétrole étaient très élevés, et donc le contexte a changé, et là on s'est aperçu que la société pétrolière n'était plus en mesure d'assurer les quotas auquel l'OPEP lui donne droit, dans la mesure où l'État, ayant pompé beaucoup trop d'argent dans les revenus d'exportation pétrolière de PVDSA, cette société n'avait pas procédé à la maintenance nécessaire permettant de maintenir les quotas qui lui sont accordés par l'OPEP. Donc il y a des facteurs également. Le gouvernement, enfin, c'était le pari d'Hugo Chavez, tentative de s'appuyer sur une bourgeoisie nationale face à une bourgeoisie plutôt lié aux intérêts des États-Unis, aux intérêts européens, qui manifestement n'a fait que changer le groupe de ceux qui étaient les prédateurs des revenus nationaux. Donc on a changé de corruption, la nature de la corruption. Donc je veux dire, le problème du Venezuela, c'est vrai, ce que je disais tout à l'heure, que les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis, donc on retrouve le Venezuela face aux États-Unis avec Cuba et avec le Nicaragua, mais la situation de Cuba et la situation du Venezuela, d'un point de vue de ce qui se passe à l'intérieur de ces deux pays, est totalement différente.
Avant de conclure avec Jacques Sapir, François Nicoulot, est-ce que vous voyez des parallèles dans la situation au Moyen-Orient avec tout ce qui vient d'être dit ?
Oui, bien sûr. Parce qu'on peut dire de façon très générale, en ce qui concerne l'efficacité des sanctions, qui est la question que tout le monde se pose, la recherche quand même démontre assez bien que, en effet, plus un pays a une société pluraliste, plus il est proche du pays sanctionneur, culturellement, plus il est petit et faible, plus il cède aux sanctions. Ça paraît presque du bon sens, mais quand les États-Unis sanctionnent les Pays-Bas en 46-47 parce qu'ils refusent de lâcher l'Indonésie, les Pays-Bas cèdent immédiatement. Quand la France sanctionne la Nouvelle-Zélande pour récupérer les gens de la DGSE condamnés dans l'affaire Rainbow Warrior en disant qu'elle va bloquer les importations ou les exportations néo-zélandaises vers l'Europe de beurre et de produits agricoles, l'affaire se résout. Ça, il n'y a pas de problème, on y arrive assez facilement. Ça devient plus compliqué, en effet, quand on a des régimes puissants, des régimes fermés, hein, qui peuvent quand même vivre en autarcie. C'est, dans une certaine mesure, le cas de la République islamique d'Iran,
oui, où on voit des pays qui ont un effet. C'est pour ça que je me permettais cette
question provoquante tout à l'heure. Et ça peut, il est important aussi que le sujet soit bien ciblé. Les sanctions peuvent être efficaces, être utiles même, parce qu'elles sont quand même moins brutales que la guerre, elles sont quand même plus efficaces que les simples déclarations politiques, mais encore faut-il que l'objectif soit bien fixé, qu'il soit à proportion, que ce ne soit pas une réaction, disons, face à l'émotion de l'opinion. Qu'est-ce qu'on fait contre un pays qui nous embête, l'opinion locale s'inquiète chez nous, donc on applique des sanctions. Ça marche en effet assez rarement.
Jacques Sapir, le mot de la fin, vous nous parliez d'une Amérique qui finalement s'isole par son unilatéralisme, ça reste quand même la première puissance au monde, sans aucun doute.
Alors, est-ce que c'est toujours la première puissance au monde ? Oui, militairement.
En PIB, militairement, oui.
Militairement, oui. En PIB, non. En PIB, elle a déjà été dépassée par la Chine. Bien sûr, le PIB par habitant de la Chine reste très faible, mais le PIB global de la Chine est aujourd'hui l'équivalent du PIB des États-Unis. Et quand on regarde au niveau du PIB mondial, on voit d'ailleurs une baisse de la part des États-Unis et de l'Europe, qui est extrêmement sensible depuis une trentaine d'années. Donc, il est très clair aujourd'hui que le problème auquel on va être confronté, c'est la fin de la superpuissance ou de l'hyperpuissance américaine, mais que les actions du gouvernement américain ne permettent pas à un autre système, à un système qui serait peut-être, je dirais, plus ouvert, qui ferait sa part à d'autres pays importants, bien sûr la Chine, mais il faut pas oublier l'Inde, qui est un pays dont on parle très peu en France et qui est un pays qui est en train de devenir une très grande puissance, et qui est d'ailleurs d'ores et déjà une puissance nucléaire, même si elle n'a pas, d'une certaine manière, un siège aux Nations Unies, mais c'est une puissance nucléaire, il faut toujours le rappeler. Bon, on voit aujourd'hui que les États-Unis ont été incapables de prendre en compte cette espèce de grande mutation au niveau international. Et s'il y a un pays, ou disons s'il y a un groupe de pays qui propose aujourd'hui un projet qui est diplomatiquement et politiquement alternatif au projet des États-Unis, c'est bien l'Organisation de coopération et de sécurité, dite Organisation de Shanghai, et ce qu'on appelle le groupe des BRICS. Car l'une des grandes réussites de la diplomatie russe depuis une vingtaine d'années, c'est d'avoir réussi à faire dialoguer l'Inde et la Chine. La Chine fait partie de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Inde est aujourd'hui un pays observateur dans cette organisation. Et on voit bien que, en termes de pays émergents et de pays en train de se développer, cette organisation réunit en fait les pays qui sont pour l'instant les pays les plus dynamiques. Donc il y a là un véritable problème et d'une certaine manière on peut se poser la question de savoir est-ce que le principal danger dans le monde ne vient pas non pas de la baisse de puissance des États-Unis, qui est indiscutable depuis une trentaine d'années et qui est assez normal, parce que cette baisse de puissance, elle correspondait à une situation anormale d'après 1945, mais plutôt le fait que les États-Unis refusent de l'admettre et refusent de coopérer avec toute une série de pays. Et je crois que c'est là plutôt la grande incertitude qui règne aujourd'hui sur les relations internationales.
Et voilà, est-ce un déni de réalité de nos amis américains ? On vous laissera sur cette question, chers auditeurs. Merci François Nicolo et Jean-Jacques Kourlianski. Merci à vous deux pour votre expertise. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir, et à vous qui nous écoutez en radio vous, ou qui nous regardez sur Internet. Cette émission se décline en effet en images. Ça se passe sur notre page YouTube et notre site. Côté pour préparer et produire cette émission, Jean-Baptiste Mendès à la technique, Pipo Pici, Thibaut Piquet, Antoine Darwin. On vous donne tous rendez-vous au prochain numéro de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici là, faites pas vos Jacques. Salut à tous.
This is not a method. This is a provocation. Let them do.
No. No. No.